إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes toujours donc dans l'explication de شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، qui est un matin de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, expliqué donc par l'éminent savant et contemporain Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Et nous sommes donc arrivés dans l'explication à Shurut al-Wudu, les conditions des ablutions. On avait vu donc les 8 premières conditions, parce qu'on avait rapporté qu'il y avait avant cela 9 conditions à la prière. Lors de la 4e condition, qui est quoi? Qui est la purification, Raf al-Hadath. On est rentré dans le wudu et on a vu qu'il y avait combien de conditions? 10 conditions. D'accord? Qu'il y avait 6 furud et qu'il y avait un wajib. Donc nous sommes toujours dans les conditions de le wudu, et non pas les conditions de la prière, les conditions de le wudu, même si les 3 premières conditions des ablutions sont les mêmes que les 3 premières conditions de la prière, qui sont quoi? L'islam ou l'aql wa at-tamiz. D'accord? Donc on est arrivé à la 9e condition. Quelle est cette 9e condition? Cheikh al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, nous dit: wa shartu at-tasi'u izalatu ma yamna'u wusulahu ila al-basharah fala budda fi al-wudu' min wusul al-ma' ila a'dha' al-wudu' wa yajibu izalatu ma yamna'u wusulahu ilayha kat-tin wal-'ajin wat-tila' wa nahwa dhalik mimma yughatti al-basharah wa amma ma yughayyiru al-lawn wa la yughatti al-basharah kal-hanna' fa inna dhalika la yu'athir. Donc, Cheikh nous dit ici un point important, comme on avait dit, et ça, je pense que c'est un point important pour les frères qui ont des travaux manuels, pour les frères qui sont peut-être carrossiers, peintres, etc., qui ont affaire à des produits, des peintures, des vernis. La 9e condition, c'est quoi? C'est le fait de retirer, d'enlever ce qui empêche l'eau de toucher la peau. Donc, ce qui empêche de quoi? De que l'eau arrive à la peau. D'accord? Pourquoi? Car il est obligatoire lors des ablutions que l'eau touche les membres du corps qui doivent être lavés lors des ablutions, ce qu'on appelle a'dha' al-wudu. A'dha' al-wudu, a'dha' c'est des membres, a'dha' al-wudu c'est les membres qui doivent être touchés par l'eau lors des ablutions. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quoi? C'est que il faut retirer, enlever tout ce qui empêche l'eau de toucher la peau. Car il est obligatoire lors des ablutions que l'eau touche les membres du corps qui doivent être lavés lors des ablutions. Il est donc obligatoire de retirer toute chose qui empêche cela, comme par exemple, le Cheikh a donné comme exemple ici, il a dit at-tin, l'argile. Donc, référence aux frères qui sont peut-être potiers, etc., qui travaillent avec ce genre de matière-là. Et bien, quand ils veulent faire les ablutions, et bien, ils doivent s'assurer que quoi, qu'il n'y ait plus d'argile sur leur peau. Pourquoi? Pour que l'eau puisse arriver à toucher la peau des endroits qui doivent être touchés par les ablutions. D'accord? Ensuite, le Cheikh a donné l'exemple aussi de la pâte à pain, l'agine et le vernis, etc. D'accord? Parmi les choses, c'est à titre d'exemple, mais en résumé, c'est quoi? Parmi les choses qui recouvrent la peau. Tandis que ce qui change la couleur et ne recouvre pas la peau, comme le henna, vous connaissez tous le henna que beaucoup de femmes utilisent pour s'embellir et autres, ceci n'influence en rien les ablutions. Et ça peut-être répondre à une question qui est souvent posée par les sœurs, qui disent, ben voilà, j'ai de la henna sur mes mains, etc. Comment ça se passe pour mes ablutions? D'accord? Et quand tu parles de vernis, etc., ça peut toucher le vernis à ongles aussi. D'accord? Donc ici, le henna, c'est quoi? Qu'est-ce que le dit le cheikh ici? Il dit que ça pose un problème ou pas? Non, ça pose pas de problème. Donc le cheikh ici dit, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il dit, « Amma ma yughayyiru al-lawn. » ce qui change la couleur. Il a donné comme exemple justement le henna. Il a dit, eh bien, à ce moment-là, il dit, la yughattil bashara kal henna fa inna dhalika la yu'athir. Pourquoi? Il a donné la raison. Il a dit, ça change la couleur de la peau, mais est-ce que ça bloque l'eau de toucher la peau? Non. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va? Est-ce que c'est clair, ce neuvième point pour tout le monde? Ça va? Dixième point. Ashartul ashiru, dukhul waqti. دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. Et ça, on avait déjà touché un mot, hein, de ça. On va voir plus en détail maintenant. والمعنى أن من كان به سلسل بول أو تخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضة فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة المفروضة أو لكل صلاة المفروضة. فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد الدخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر. بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة والحديث أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Il nous dit quoi? حفظه الله تعالى. Il nous dit que la deuxième condition, c'est quoi? C'est l'entrée de l'heure de la prière obligatoire pour qui? Pour tout le monde, non? Pour celui qui a des sorties constantes de ces deux orifices. Et ça, on avait déjà touché un mot la dernière fois. Par exemple, pour nous, si on n'a aucun problème avec ce niveau-là, est-ce qu'il est obligatoire de faire ces ablutions à chaque entrée de prière? Non. Tandis qu'ici, le cheikh parle des gens qui ont quoi? Qui ont des problèmes et qui ont des sorties constantes des deux orifices. Il va donner quelques exemples. Il a dit, c'est-à-dire que celui qui a de l'urine ou des gaz qui sortent de manière constante. Ainsi que la femme qui est ce qu'on appelle mustahada. Et on avait dit qu'en français, c'est quoi mustahada? C'est qu'il est en état de métrorragie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, pour une raison médicale, qui, quoi, qui ont des pertes de sang de manière constante. Hein? Comme une veine qui peut donner ce genre de perte de sang, etc. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait la femme? On avait parlé de ça, vous vous souvenez quand? On avait dit que maintenant, si une femme ne connaît pas le hub, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier, elle va sentir qu'elle a des pertes, elle va recommencer à prier et ainsi de suite. Alors que la religion lui a été facilitée, hein, c'est que quoi? C'est que, comme le cheikh va le dire exactement, et il parle des autres cas aussi, pas que la femme qui est mustahada, mais toutes les personnes. C'est important de comprendre ça. Le cheikh l'a cité, ce genre de personnes-là, c'est à titre d'exemple. Mais en fait, ça comprend toutes les personnes qui, quoi, qui ont des sorties constantes, hein, de leurs deux orifices. C'est-à-dire des quoi? Des, comme une urine constante ou quelque sortie que ce soit, d'accord? Et que ce problème-là, que de manière constante, évidemment, eh bien, eux, il y a un hukm spécial pour eux. C'est que quoi? C'est que ceux-là, comme il a dit le cheikh, les gens précités, se doivent de faire les ablutions à l'entrée de chacune des prières obligatoires. C'est-à-dire qu'à l'entrée de l'heure de dhuhr, par exemple, il fait ses ablutions pour dhuhr et il prie. D'accord? À l'entrée de dhuhr, quand l'heure est rentrée, au début, il fait ses ablutions et il prie. D'accord? Si l'un d'entre eux fait ses ablutions pour la prière de dhuhr, c'est ce que dit le cheikh ici, après le début de son heure de dhuhr, et qu'ensuite l'heure de la prière de l'asr maintenant arrive. Hein? Donc la prière de l'asr, elle débute, l'heure est rentrée, elle débute la prière de l'asr, son heure en tout cas. Il ne peut pas prier avec les ablutions qu'il a faites pour la prière de dhuhr. Mais pourquoi? Si on se pose la question pourquoi, c'est assez facile à comprendre. C'est pourquoi à votre avis? Hein? Exactement, parce que justement il y a toujours cette sortie-là. Hein? Et vous voyez qu'alhamdoulilah, ça facilite. C'est quoi? C'est que la prière de dhuhr, elle rentre, mais je fais mes ablutions, et qu'est-ce que je fais? Je prie. Alhamdoulilah. Et je ne dois pas recommencer. La prière de l'asr maintenant, elle arrive. Qu'est-ce que je fais? Je fais mes ablutions et je prie. Est-ce que je peux prier avec mes ablutions de dhuhr? Non. Je crois que c'est clair pour tout le monde, d'accord? Donc, Cheikh nous dit ici, il ne peut pas prier avec les ablutions qu'il a faites pour la prière de dhuhr. Mais de plus, il se doit de faire ses ablutions pour la prière de l'asr après l'entrée de l'heure de l'asr. Alors pourquoi est-ce que le Cheikh a dit après l'entrée de l'heure de dhuhr, après l'entrée de l'heure de l'asr? Pourquoi chaque fois il dit que quand l'entrée rentre après l'entrée de l'heure? Pourquoi à votre avis? Ben pour la prière directement, barakallahu fikoum, naam, sahih. Hein? Pour la prière directement justement. Tu attends de que l'heure rentre. Okay. Tu fais tes ablutions et tu pries directement. Voilà, j'ai alik. Il n'y a rien à demander de plus pour toi, d'accord? Hein? Est-ce qu'il doit recommencer sa prière? Non, il a prié, khalas, c'est bon. Ça va? Donc vous voyez l'importance de connaître ce genre de points pour nous faciliter la vie. Hein? Et Cheikh, donc, ici, continue en disant quoi sur ce point-là, en tout cas? Ceci nous indique évidemment, il y a un délit là-dessus, une preuve là-dessus. Par l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui? À Fatima, notez le nom, Fatima bint Abi Habish. Pourquoi? Alors qu'elle était en état de métrorragie, de faire ses ablutions pour chaque prière. Et le hadith, pour ceux, les frères qui veulent la référence, est rapporté par le Bukhari, numéro 228, d'après une narration de Aïcha, radiallahu anha wa ardaha. Donc, elle a l'agré à Aïcha, hadith 228, le Bukhari. Est-ce que c'est clair ce point-là pour tout le monde? Parce que là, si c'est clair, on a fini les 10 conditions, non pas la prière, mais les 10 conditions de, des ablutions. D'accord? Al-Wudu, na'am. Ok? Maintenant, on va rentrer dans quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois qu'on allait voir aujourd'hui, Inch'Allah? Furud al-Wudu. Hein? Ok? Oui. Si on veut faire la différence entre les conditions, Shurud al-Wudu et Furud al-Wudu, qu'est-ce qu'on peut déjà dire en voyant ça? Non, barakallahu fik, non. Tandis que le wudu, c'est plus spécifique à ce qu'il y a à l'intérieur des ablutions. D'accord? Vous allez le voir directement. Cheikh continue en disant, donc Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, furud al-wudu. Qawluhu wa amma furuduhu fa sitta. Ghaslu al-wajhi wa minhu al-madmadatu wa al-istinshaq. Wa hadduhu tula min manabiti sha'ri al-ra'si ila al-dhaqan. Wa irdan ila furu'i al-udhunayn. Wa ghasl al-yadayn ila al-marfiqayn. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلا جدي أرجلكم pourquoi pour les frères qui ont peut-être l'aimé القراءة القرآن il y a une autre قراءة qui est وأرجلكم et on va voir pourquoi et ça joue sur le wudu aussi. D'accord ? Il a Ka'bin dans Surat Al-Ma'idah. Wa dalilu al-tartibi hadithu ibda'u bima bada Allahu bih. Wa dalilu al-mualat hadithu sahib al-lum'ah an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ra'a rajulan fi qadamihi lum'atun qadra al-dirhami lam yusibha al-ma' fa amarahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam bil-i'adah. Donc ça on est toujours dans le matin de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah. Et maintenant Cheikh Mohamed Al-Abbad va nous expliquer. Alors, qu'est-ce que nous dit ici, Cheikh Al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans cette partie-là? Il nous dit quoi? Que ces furud, hein, ce qu'on appelle furud al-wudu, sont au nombre de, yarhamukallah, sont au nombre de 6. D'accord. Le lavage du visage, hein. Et en fait partie, ce qu'on appelle al-madmadah ou al-istinshaq. Ça, c'est des termes qu'on a besoin de définir aussi. Donc, vous vous souvenez qu'est-ce que je vous ai conseillé de faire? Je vous ai dit que ce serait bien de faire un organigramme, hein, les conditions de la prière, quatrième condition de l'wudu, on rentre ensuite dans les conditions de l'wudu, on rentre dans le furud de l'wudu, wajib de l'wudu, hein, pour avoir une vision claire des choses, d'accord? Si vous voulez, je peux le revoir, inshallah. Si on doit faire ce genre d'organigramme maintenant ici, de plan, on voit, voilà, les furud sont au nombre de 6. Premier, c'est quoi? Le lavage du visage, ghaslul wajhi. Et qu'est-ce qui en fait partie? De ce lavage du visage là, donc en dessous, fait partie de ça quoi? Yarhamukallah. Al-madmada ou al-istinshaq. Qu'est-ce que le madmada? C'est le fait de rentrer l'eau dans la bouche, d'accord? De se nettoyer la bouche, ce qu'on appelle madmada. Hein? Et l'istinshaq. Qui s'est expliqué c'est quoi l'istinshaq? Non, ça c'est l'istinthar. Qu'est-ce que c'est l'istinshaq? Si je vous fais le geste comme ça. L'istinshaq, c'est rentrer l'eau avec la main droite dans le nez. Et ce que tu as dit, toi, c'est l'istinthar. Istinthar. C'est quoi? L'istinshaq, c'est tu rentres de l'eau avec la main droite dans le nez. Et l'istinthar, tu le ressors avec la main gauche. Ça, c'est l'istinshaq, ça, c'est l'istinthar. Et ça, c'est la madmada pour la bouche. D'accord? Ça va? Donc, qu'est-ce qui fait partie ici, le cheikh dit, du visage? C'est la madmada, le fait de rincer la bouche. Faire rentrer la bouche avec la main droite et de rincer la bouche. Et c'est quoi? C'est l'istinshaq, le fait de faire rentrer dans les narines. L'eau, hein, avec la main droite, d'accord? Et maintenant, quand on a parlé du visage, il faut le définir, c'est quoi le visage? C'est quoi le visage? C'est sa limite en longueur, c'est quoi? Et de l'endroit où les premiers cheveux, les cheveux poussent au-dessus du front, d'accord? Ce qu'on appelle manabit ras sha'r, hein, c'est les racines des premiers cheveux ici. Jusqu'au haut, jusqu'à ce qu'on appelle en arabe al-dhaqan, jusqu'au menton. Vous allez voir que Cheikh dit ici, évidemment pour les hommes, comme la barbe est obligatoire, hein, eh bien c'est quoi? C'est que c'est jusqu'au bout de la barbe. Donc le visage, c'est délimité, vous allez voir, Cheikh va l'expliquer après, c'est que quoi? C'est que c'est de la racine des cheveux de la tête, le premier ici évidemment, au-dessus du front, jusqu'au haut, jusque le bas de la barbe, d'accord? Le bout de la barbe, la fin de la barbe si vous voulez, ça va? En largeur maintenant, comment est-ce qu'on définit le visage en largeur? Eh bien le Cheikh dit, et vous allez voir que Cheikh Al-Abad va tout nous expliquer, moi je traduis juste le maintenant en fait pour le moment, c'est jusqu'aux oreilles, c'est-à-dire mais sous les oreilles, c'est-à-dire que les oreilles ne sont pas comprises dans le visage. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Est-ce que les oreilles on les lave ou on passe les mains mouillées sur les oreilles? On passe les mains mouillées sur les oreilles. Or, le visage, on doit le laver. Donc, si on dit que les oreilles font partie du visage, voilà. Vous voyez comment les ulémas sont très précis quand ils parlent, hein? D'accord? Ensuite, le lavage des mains jusqu'aux coudes. On va voir que c'est les coudes inclus, comme on dit. D'accord? Y compris, si vous voulez, les coudes. Donc, des mains, on va voir que c'est de l'extrémité des doigts de la main jusqu'au quoi? Jusqu'au coude inclus. C'est important ce mot-là en français, inclus. D'accord? Ensuite, l'essuyage de la tête. Mais l'essuyage, c'est quoi? Hein, c'est pas le fait de s'essuyer avec un essuie. Hein. C'est quoi? C'est le fait de passer les mains mouillées sur la tête. Hein. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut partir vers l'arrière jusqu'à la base et revenir vers l'avant. D'accord? Sachir va expliquer ça après, Inch'Allah. Et en fait partie de quoi? Qu'est-ce qui fait partie de la tête? Les oreilles, barakallahu fik, les deux oreilles, naam. Ensuite, l'un des six furud aussi, c'est le lavage des pieds. Donc le lavage des pieds fait partie de furud l'wudu. Jusqu'aux chevilles. Et on va voir c'est quoi les chevilles, et on va voir l'égarement de certaines sectes égarées par rapport à ce point-là. Ensuite, cinquième fard de les ablutions, c'est quoi? L'ordre, le tertib. Hein? D'accord? Et le suivi, al-mu'alat, ce qu'on appelle mu'alat. Hein? Et on va expliquer tout ça, inshallah. On est toujours dans le matn ici. La preuve de cela est la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ma'idah, verset 6. Et ça, c'est un verset que tout frère doit connaître par cœur. Parce que c'est le verset sur quoi? Sur al-wudu. C'est le minimum à connaître. D'accord? C'est le verset dit en arabe, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous vos visages. Et on va voir c'est quoi lorsque vous vous levez pour la prière. Hein? Lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça, c'est la traduction approximative du sens du verset de Sourate Al-Ma'idah. Également, la preuve de l'ordre, donc ce qu'on a dit, quoi, tertib, c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commencer par ce quoi Allah a commencé. On va faire le tahrij ensuite ensemble, inshallah. Et la preuve du suivi, de ce qu'on appelle mu'alat, c'est quoi? C'est le hadith de celui qui avait une partie de son pied sèche, c'est-à-dire qu'une partie de son pied qui n'était pas touchée par l'eau. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de laver la partie, donc lui a ordonné en fait de refaire ses ablutions. D'accord? On va voir tout ça en détail, inshallah. Maintenant, l'explication justement. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abdel Mahsil Abbad sur ce point-là, qui est quand même assez important? C'est quoi? Il dit, nous, Cheikh Al-Abbad nous dit, Sifatul wudu ja'at mubayyina fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. ففي كتاب الله عز وجل جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدة verset 6. ومعنى قوله وإذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارة. ها؟ ومعنى قول ومن مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النحل أي إذا أردت القراءة. Ici un point important c'est quoi? C'est que le Cheikh nous explique en fait que la description des ablutions a été mise en évidence dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Dans le livre d'Allah, dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, verset 6, c'est le verset qu'on a cité précédemment, « Ô croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. » D'accord? Et ici, le sens des « lorsque vous vous levez », qu'est-ce que ça veut dire? Hein? « Ay arattum al-qiyama laha » Si vous voulez vous lever pour la prière alors que vous n'avez pas vos ablutions. Et c'est important de préciser cet tafsir-là. Pourquoi? Parce que sinon on va comprendre qu'il faut faire vos ablutions pour chaque prière de manière obligatoire. Hein? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans le verset ici, hein? Vous voulez vous lever pour la prière alors que vous n'avez pas vos ablutions. Regardez le cheikh, où est-ce qu'il va chercher l'explication de ça? Hein? Un verset qui est du même type. C'est quoi? C'est le verset dans le surat Nahl, verset 98-98. C'est quoi? C'est? Naam. C'est? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Si on traduit de manière littérale, c'est « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. » Or, ce qu'il voulait ici, c'est-à-dire si tu veux lire le Coran, d'accord, hein? Si tu veux lire le Coran, eh bien, tu fais quoi? Tu fais, tu dis, tu cherches protection, tu dis à Adam Sadan Rajim, tu cherches protection auprès d'Allah contre le diable banni. Donc, avec ce verset-là, le shir nous montre quoi? Que quand on dit lorsque vous vous levez, c'est comme ce qu'on dit lorsque vous lisez. C'est-à-dire lorsque tu veux lire, donc lorsque tu veux te lever. D'accord? Tandis que l'épreuve, cher, continue en disant وَأَمَّا سُنَّةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ جَاءَتْ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ذَلِكَ عَنْ حِمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَى بِوَضُوءٍ. On va voir c'est quoi la différence entre wudu et wadu. En arabe, qu'est-ce que la différence ici? Juste pas dans le sens, juste dans la sémantique, juste dans la structure, pardon. Le wa, qu'est-ce qu'il y a sur le wa qui change? Dans le premier wudu, il y a une damma, et dans le deuxième, il y a une fatha. Eh bien, le premier wudu, c'est les ablutions, et le deuxième wadu, c'est l'eau des ablutions. Comme tuhur et tahur. Vous voyez l'importance de la langue arabe. Wudu, comme on dit, je vais faire le wudu, c'est quoi? Hein? C'est les ablutions. Et quand j'ai dit wadu, c'est l'eau des ablutions. Donc, c'est dans le hadith, qu'est-ce que je dois lire? D'a Uthman bi wudu, ou bien Uthman il a demandé le wudu, ou bien il a demandé le wadu. Il a demandé le wadu, l'eau des ablutions. D'accord? Fa'afraga ala yadihi min ina'ihi fa'ghasalahuma thalatha marrat. Thumma adkhala yaminahu fil wadu. Pas fil wudu, évidemment, fil wadu, dans l'eau des ablutions. Thumma tamadmada wa stanshaqa wa stanthara. Thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadihi ila al-marfiqayn thalatha. ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال ومن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc ici c'est un hadith qui est très très important. Vous voyez qu'ici on prend le fiqh بدليله. Et c'est une des grandes ni'am qu'on a, c'est quoi? D'avoir cette explication d'un muhaddith. Donc, Cheikh Mohsen Abbad, sa spécialité, c'est le hadith. Hein? Et vous voyez que le fiqh, il est basé directement sur le dalil. D'accord? Qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohsen Abbad ici? C'est des hadiths et des versets, des preuves que n'importe quel musulman doit connaître. C'est les preuves des choses essentielles dans notre religion, dans la vie de tous les jours, c'est les ablutions, la prière, etc. D'accord? C'est quoi ici? C'est que toujours dans le cadre où les ablutions ont été décrites dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, le Cheikh ici nous rapporte un hadith où les ablutions ont été quoi? Décrites. Et c'est le hadith de qui? C'est Cheikh dit, tandis que les preuves des ablutions dans la Sunna ont été établies par la parole et l'acte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux-là, d'après Himran, Mawla Uthman ibn Affan. Ici, Cheikh rapporte un point important, il dit dans les paroles et les exact. Donc, si quelqu'un vous demande, oui, mais pourquoi tu fais des ablutions comme ça? Tu lui dis parce que le professeur l'a fait comme ça, donc on a des rapports, des narrations sur son acte et sur sa parole. Il nous a dit comment faire et il nous a montré comment faire. Donc ici, Uthman ibn Affan, hein, et c'est un hadith rapporté par Himran, Mawla Uthman ibn Affan. Hein? Eh bien, il a vu Uthman ibn Affan, évidemment, radiallahu anhu wa ardah, demander l'eau pour les ablutions, ce qu'on appelle wadou, avec fath al-waw. Wadou, pas wadou. Wadou, c'est donc l'eau des ablutions. Donc il a demandé le wadou, dont il a versé du récipient sur ses mains. Est-ce qu'il a mis ses mains directement dedans? Non. Il a pris le récipient, il a versé sur ses mains, qu'il a lavé combien de fois? 3 fois. Il a ensuite introduit sa main dans le récipient. Il a ensuite fait la madmada. Qu'est-ce que la madmada? Le rinçage de la bouche. Naam. Combien de fois? Et l'istinchar aussi, pardon. L'istinchar, c'est quoi on a dit? Rentrer l'eau dans les narines avec la main droite. Et l'istinchar, c'est quoi? Sortir l'eau des narines avec la main gauche. Donc il a fait la madmada, le rinçage de la bouche. L'istinchar et l'istinchar. D'accord? Il a ensuite lavé son visage 3 fois. Hein? Et vous savez que la sunna, on peut faire les deux. Hein? Ça, c'est pas rapporté ici. Vous savez qu'on peut faire la madmada toute seule, puis rentrer, on reprend de l'eau et rentrer dans les narines. Ou bien on peut faire les deux en un geste. Hein? Pour les gens qui sont sur Internet, c'est un peu plus difficile à visualiser, mais hein, c'est une image de quoi? De qu'ils ont en tête que quelqu'un prend de l'eau de la main droite, la rentre dans la bouche et directement va dans les narines et les faire sortir avec la main gauche. Donc tu fais rentrer avec ta main droite dans la bouche et directement au-dessus dans les narines avec la main droite. Ça, c'est autorisé dans la sunna aussi. Et de quoi? De sortir avec la main gauche. Donc les deux sont valables dans la sunna. Il a ensuite lavé son visage 3 fois. On a défini c'était quoi le visage. Et ses mains jusqu'au coude 3 fois. C'est-à-dire les coudes inclus. Naam. Il a ensuite passé ses mains mouillées sur sa tête. Combien de fois? 1 fois. Hein? Mais ici, il a dit quoi? Il a dit ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ. Il n'a pas dit une fois, évidemment. C'est ce qu'on connaît. Mais ici, il n'a pas été précis dans le hadith. Hein? Il lava ensuite chacun des pieds 3 fois. Puis il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions comme je l'ai fait. Ah, donc c'est quoi? C'est un rapport de l'acte ou de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De l'acte. Donc c'est quoi? C'est Himran qui est le mawla, hein? Le serviteur de Uthman ibn Affan, qui nous décrit que Uthman ibn Affan, il l'a vu faire ça et que après ça il a dit quoi? Que il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez vu la chaîne de transmission? Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions de cette manière. Donc, Uthman ibn Affan a dit, radiallahu anhu arda, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions comme ses ablutions comme je l'ai fait. Et il dit, donc Uthman ibn Affan, celui qui fait ses ablutions comme je l'ai fait, puis prie 2 rak'at, sans faire ce qu'on appelle yuhadithu nafsahu. Et on va voir c'est quoi yuhadithu nafsahu. Hein, parce que Cheikh l'a pas expliqué ici, mais on a été chercher l'explication dans un autre livre. Hmm? C'est quoi? C'est que Allah lui pardonne ce qui a précédé comme péché. Hadith, notez la référence, rapporté par le Bukhari, numéro 164, et Muslim, numéro 226. Alors ici, un point important rapporté par Yuhadithu Nafsahu. Parce que le professeur Uthman ibn Affan a dit, Thumma salla. Hein? Et c'est qui la parole de qui, évidemment? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu. Il ne fait pas ce qu'on appelle tahdith an-nafs. Ça veut dire quoi ici? Eh bien, on a été voir dans Sharh Umdat al-Ahkam. Hein? C'est un des livres qu'on va faire plus tard, Inch'Allah aussi. Et avec l'explication de Sheikh Abdullah al-Bassam, qui est parmi les élèves de Sa'adi et parmi les contemporains de Sheikh Al-Athaymin et de Sheikh Sa'adi. Hein? Ils ont étudié ensemble chez Sheikh Sa'adi. Donc, qu'est-ce que nous dit Sheikh Abdullah al-Bassam qui a fait l'explication de Umdat al-Ahkam? Page 30. Si vous voulez le nom complet, c'est Taysir al-Allam, Bisharh Umdat al-Ahkam, de Cheikh Abdullah al-Bassam. Page 30. Il nous explique la partie La yuhadithu nafsahu, ou La yuhadithu fihima, dans les 2 rak'at, nafsahu. Eh bien, il dit Hadithu nafs, c'est le wuswas. Et ce qui te vient à l'esprit, comme pensée et autres, d'accord? Et ce qui est entendu dans ce hadith, c'est les choses du bas monde, de la dunya. Hein? C'est-à-dire s'étendre là-dessus, car il est difficile de ne pas s'empêcher de penser. Donc celui qui fait ce wudu-là de cette manière-là, qui se lève et qui prie deux rak'a, sans faire tahdith nafs, c'est-à-dire sans avoir de wuswas ou sans avoir quoi? Non, de penser à la dunya, mais en s'étendant là-dessus. Parce qu'il est difficile de s'empêcher à penser des choses. Mais ce qu'on cherche, regardez, il dit quoi, c'est hein? Parce qu'il a dit muta'addir, il a dit c'est difficile, c'est, hein? De ne pas s'empêcher, mais c'est de s'étendre là-dessus. Eh bien, celui qui ne fait pas ça, et qui donc fait ces deux rak'at-là, hein? Sans faire cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lui pardonne ce qui a précédé comme péché. Évidemment, première question qui se pose à la tête de tout le monde, est-ce que ça comprend tous les péchés? Hein? On sait qu'il y a une divergence chez les savants là-dessus. Et moi, j'ai rapporté la parole de Cheikh Abdullah al-Bassam ici, dans le même livre, mes pages 33. C'est quoi? Il nous dit, Cheikh, ici, que les péchés pardonnés dans ce hadith sont les petits péchés. Car les grands péchés ne sont pardonnés qu'après le repentir, tawbah. C'est important de dire parce que le hadith dit Rufira lahuma taqaddama min dhanbi. Sans préciser, le kaba'ir ou le sagha'ir. Mais évidemment, jam'an bil adilla shar'iyya, ça en regroupant les textes, et bien Cheikh al-Bassam et d'autres savants ont compris que quoi? Que, eh bien, c'est que les petits péchés ici. Hein? Et vous regardez, c'est un grand ajr déjà. Tu fais tes ablutions de cette manière-là, tu te lèves, tu pries de rak'a de manière concentrée, sans t'étendre sur les choses de dunya, sans avoir de wuswas, etc. Hein? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as tes petits péchés qui sont quoi? Pardonnés. Allahu Akbar, c'est déjà une très grande récompense. D'accord? Et le hadith, qu'on a dit, rapporté par le Bukhari ou un musulman. Ensuite, le cheikh continue en disant, le fait de laver les membres trois fois, ou rasl al-a'da'i, thalathan, huwa al-wudu al-kamil. Wa la yajuzu ziyadatu ala dhalik, وقد جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع أعضاء الوضوء وفروض الوضوء ستة. Donc Cheikh ici rapporte un point, il nous dit quoi? Le fait de laver les membres trois fois, ce sont les ablutions les plus complètes. Et il n'est pas permis de rajouter à cela. Donc question maintenant, j'ai envie de faire bien, mashallah, je suis mieux que les autres, hein? En tout cas c'est ce que je pense, et je vais faire sept fois. L'ouado, 6 fois, 5 fois, 4 fois, est-ce que c'est autorisé? Non. Le maximum, donc le meilleur, le plus complet, c'est quoi? 3 fois qui était rapporté dans la sunna, d'accord? Et ça a également été rapporté, donc les ablutions, 2 fois, 2 fois. Comme cela. C'est-à-dire que les membres qui ont été rapportés 3 fois, 3 fois, eh bien, il y a des narrations avec 2 fois, 2 fois. Et il y a des narrations aussi avec 1 fois, 1 fois. D'accord? Et c'est surtout ce qu'on appelle les ablutions minimum. Donc maintenant, si je fais mes ablutions 1 fois, 1 fois, les membres, en lavant les membres une fois. Est-ce que c'est bon, je peux prier? Ma prière est sahia ou pas? Mes ablutions en tout cas sont authentiques ou pas? D'accord. Si je fais deux fois? Naam. Si je fais trois fois? Et c'est quoi le mieux? Trois fois, naam. D'accord? Et donc c'est le lavage une fois, comprenant tous les membres qui doivent être lavés lors des ablutions. Et donc, cher, continue en disant, furud al-wudu sita. Les furud du wudu sont au nombre de six. D'accord? Le premier, on les avait cités, maintenant on va les expliquer. Ghasl al-wajh. Wa hadduhu toulan min manabit sha'r al-ra's ila ma starsala min al-lihya. Wa 'irdan ma duna al-udhunayn. Wal-udhunan fi al-wudu' min al-ra's fatumsahan. وليست من الوجه فتغسلان والتخليل اللحية مستحب والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق كما جاء ذلك مبينا في حديث عثمان رجل عنه أرضاه وغيره. Donc ici, premier des furud wudu, c'est quoi? C'est le lavage du visage. Le visage, on a dit qu'il s'étend en quoi? En longueur de la racine des premiers cheveux au-dessus du front, comme cela, jusqu'à la fin de la barbe, hein, et en largeur, sur la largeur du visage, sans les oreilles. D'accord? Car les oreilles font partie de la tête. Et on passe les mains mouillées sur les oreilles, et on ne les lave pas. Alors, Cheikh rapporte un point important ici, c'est ce qu'on appelle tahlil al-lihya dans le wudu. C'est quoi? C'est le fait de rentrer quoi? Hein? Ses doigts dans la barbe pour bien faire passer l'eau jusque, hein? Jusque toucher jusque tout, hein? Jusqu'à la peau pour faire bien hein? Rentrer l'eau dans la barbe. D'accord? Tahlil al-lihya. C'est quoi donc? Eh bien ça, est-ce que c'est préférable ou c'est wajib? Eh bien, Cheikh dit que c'est mustahab. C'est préférable. Ce qui est obligatoire dans le lavage du visage, c'est ce qui est apparent du visage, ce qu'on appelle bihil muajaha. D'accord? C'est-à-dire que si tu te laves tes visages comme ça, eh bien c'est bon. Mais si tu fais tahlil lihya, tu passes tes doigts dans ta barbe avec l'eau, eh bien c'est quoi? C'est mieux, c'est préférable, mustahab. Le tahlil de la barbe, comme nous dit Cheikh ici, ne rentre pas dedans, dans le lavage du visage. Mais c'est quoi? C'est ce qu'on appelle quelque chose de mustahab. Donc il n'y est pas inclus, mais ce qui est inclus, c'est la madmada. Le visage, le rinçage, pardon, de la bouche, et les stinchak, le fait de rentrer l'eau dans les narines avec la main droite. Comme cela a été détaillé dans le hadith de Uthman, radiallahu anhu, arda, et dans d'autres hadiths. Le hadith qu'on a vu quoi maintenant de Uthman ibn Affan, d'accord? Parce qu'on a dit qu'à un moment, il a fait quoi? Tamadmada, wastanshaqa, wastanthara. D'accord? Deuxième phare parmi furu du wudu, c'est quoi évidemment? C'est. Hein? Lavage des mains, na'am, rasliyadin, jusque quoi? Jusqu'au coude. Alors qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Raslu al-yadin ila al-marfiqin. وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل في الغسل السلام ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء لأن ذلك مستحب إلا عند القيام من النوم فإنه واجب وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه فلا يكفي ما كان قبله. Ici le cheikh nous dit le deuxième c'est le lavage des mains jusqu'au coude. À partir des extrémités des doigts jusqu'à la fin des coudes, c'est-à-dire les coudes inclus. Et ça, c'est important. Hein? Donc, les coudes sont inclus dans le lavage des mains. Inclus dans le lavage des mains. Et il ne suffit pas pour les ablutions de laver les paumes des mains avant les ablutions. Car ceci n'est préférable que lorsqu'on se réveille. Car le lavage des mains est obligatoire. Et le lavage des mains est après le lavage du visage. Qu'est-ce que veut dire le cheikh ici en fait? Vous connaissez cette sunna, hein? C'est quand vous levez la nuit, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. D'accord? Ok? Après qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait, on se rase la bouche, le nez, comme on a dit, puis quoi? Le visage, puis les mains jusqu'au coude. Maintenant, est-ce que parce que j'ai lavé mes mains, est-ce que ça suffit, je ne lave pas mes mains après le visage? Est-ce que si j'ai lavé mes mains quand je me suis réveillé, est-ce que ça suffit? Je ne me lave pas les mains après le visage? Non, ça ne suffit pas. C'est ce que dit le cheikh ici. C'est juste pour illustrer qu'est-ce qu'il dit en fait. Il dit pourquoi? Regardez la raison. Car le lavage des mains est obligatoire et le lavage des mains est après le lavage du visage. Ceci est, alors ce qui est donc avant le lavage du visage ne suffit pas. Donc tu te dois quoi? De laver tes mains et ce jusqu'au coude après le visage. C'est ça que veut dire le cheikh ici. C'est clair, hein? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Sûr? En résumé, tu laves ton visage, d'accord? Et puis après ton visage, qu'est-ce que tu fais? Tu laves tes mains jusqu'au coude. Non, tu laves tes mains jusqu'au coude. D'accord? Pourquoi? Parce que certaines personnes pourraient se dire quoi? Ben, comme j'ai déjà lavé mes mains avant, ben c'est bon, je vais plus refaire mes mains. Ah, oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, le cheikh a bien dit, tu laves tes mains de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Donc si tu veux, si je te montre comme ça, regarde, tu as la limite d'ici, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Ça va? Mais qu'est-ce que le cheikh a dit? Regardez qu'est-ce qu'il a dit, c'est bien. Car ceci n'est préférable que lorsqu'on se réveille. Il y a une des paroles là-dessus que certains ulama voient, que c'est wajib de le faire quand tu te réveilles, hein? Et revenir à Ahmed al-Ahkam de Cheikh al-Bassam, Inch'Allah. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est quoi? C'est un, furu al-wudu, c'est le lavage du visage. Tu te laves le visage, ça fait partie de furu al-wudu. Le sirla, c'est en premier. Deuxième, c'est quoi? Tu te laves les mains. Même si tu t'es lavé les mains avant de te laver le visage. Tu as compris maintenant? Et quand tu te laves les mains, tu te laves les mains jusqu'où? Après le visage, jusqu'où? Au coude, inclus ou pas inclus? Inclus, voilà. Troisième maintenant. Fard thalif, qu'est-ce que nous dit le shir ici? C'est quoi? C'est mashur ra'si. C'est quoi? Yakunu marratan wahidatan yabda'u fiha min muqaddami ra'sihi ila muakhirihi. ثم يعود للمكان الذي بدأ منه وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس والأذنان عفوا ويمسح مع الرأس الأذنان. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? C'est quoi? C'est que passer les mains mouillées, donc c'est le troisième farz min furud al-wudu, c'est passer les mains mouillées une seule fois de l'avant de la tête ici là comme on avait dit tout à l'heure. Jusqu'où? Jusqu'à l'arrière de la tête. Hein? Et de revenir jusqu'à où? L'avant où on a commencé. C'est clair pour tout le monde ça. Donc tu passes tes mains mouillées de l'avant vers l'arrière et tu reviens comment? Jusqu'à là où tu as commencé. Ça va? Alors maintenant il y a un point important pour les femmes évidemment. Ce qui s'étend au-delà de l'arrière de la tête, comme cheveux. Parce que les femmes, elles ont souvent des cheveux qui sont plus longs que ça. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Est-ce qu'elle doit essuyer jusqu'à la fin des cheveux? Ou elle se contente à l'arrière de la tête? Elle cherche ici, c'est ce qu'il dit. Il dit quoi? Ce qui se... Hein? Ça enregistre bien ça. C'est un point important. Hein? Ce qui s'étend au-delà de l'arrière... Parce que je vois des frères qui... Ils regardent si ça enregistre bien. Ce qui s'étend au-delà de l'arrière de la tête, des cheveux d'une femme, n'est pas essuyé. On se contente de passer les mains mouillées jusqu'à l'arrière de la tête. Donc c'est un point important. Donc ça suffit pour une femme de quoi de se limiter, de passer quoi? Des mains de l'avant jusqu'à l'arrière de la tête et de revenir. D'accord? Et les oreilles sont également essuyées avec la tête. Pourquoi? Je vous ai donné la raison tout à l'heure. Bah parce que les oreilles font partie de la tête. Est-ce qu'elles font partie du visage? Non. D'accord. C'est pour ça qu'en arabe, il a dit « Ma dun al-udhunayn ». Il a « Ma dun al-udhunayn ». C'est là. Comme cela. Quatrième, le fard al-rabi', quatrième fard min furud al-wudu, il dit quoi? « Ghasl al-rijlayn ila al-ka'bayn, wal-ka'ban dakhilan fi al-ghasl, wa fi kulli rijl ka'ban. وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال فيمسحون إليهما فإن فرض الرجلين الغسل وليس المسح وقد دلت قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بفتح اللام والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بينت صفة الوضوء على ذلك وأما قراءة الكسر في أرجلكم وأرجلكم فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين والاعتماد عليها والترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب ودلت عليه السنة ومن اتباع المتشابه وترك المحكم ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما أنهم حرموا أنفسهم سيما التحجيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأنهم عرضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة كذلك. Donc ce que le cheikh ici dit ici et c'est un point comme un petit c'est que le quatrième fard wudu c'est le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Les chevilles sont donc quoi inclus dans le lavage des pieds. Et à chaque pied il y a deux chevilles. Je vois des yeux qui me regardent. Hein? À chaque pied, il y a deux chevilles. Hein? Il y en a deux. Hein? Maintenant que je vous montre, c'est plus clair, évidemment. D'accord? En arabe, il a dit Ka'bani. D'accord? Et ce qui est voulu par les chevilles, ce n'est pas les deux os proéminents sur le dos du pied, comme le prétendent certaines sectes égarées. Vous allez comprendre pourquoi Cheikh dit ça. Il s'essuie les pieds jusqu'à ces deux os. Hein? Or, le fard, il fait référence à qui, évidemment? C'est quelle secte qui lave pas les pieds et qui les essuie simplement sans chaussettes, hein? Naam, c'est le Shia. D'accord? D'accord? C'est quoi? C'est que le fard de l'obligation dans les pieds, c'est le lavage. Parce que même le masah, quand tu le fais le masah, tu le fais sans te laver les pieds. Évidemment que tu le fais quand tu laves les pieds, que tu as mis quelque chose sur tes pieds. Donc, hein? C'est juste ou pas ce que je dis? Hein? D'accord. Donc, le fard de l'obligation des pieds, c'est le lavage. Pas l'essuiement, pas l'essuyage. D'accord? Et la lecture du verset de Sourate Al-Ma'idah, on va rentrer dans un point de grammaire, on va finir là-dessus, Inch'Allah. C'est wa arjulakum wa arjulikum. Il y a deux qira'a dans ce verset de Sourate Al-Ma'idah. Vous allez voir encore une fois l'importance de la langue arabe. Et si on ne comprend pas, c'est parce qu'on a un problème dans la grammaire arabe. C'est quoi? C'est que, regardez le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Wa idha qumtum, ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Avec fatha, hein? Donc c'est pourquoi il est mansoub ici? Parce que c'est maf'ul bihi. On est d'accord ou pas? C'est ce qu'on appelle en français un complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'on lave? Les pieds. Ici, les visages. Wa aydiyakum. Aydi yakum. Encore une fatha. Pourquoi? Parce que le ma'touf al mansoub, mansoub. Ce qui est coordonné sur le mansoub, il est mansoub aussi. D'accord, vous me suivez là. Il est le marafiqi. Shkoukoud. Wa msahou. Encore un autre verbe. Et passer les mains mouillées, essuyer. Biro usikum. Là, on a une kasra. Pourquoi? Parce que bi, harf jar. Wa arjulakum. Or, arjulakum, il y a une fetha. Donc, est-ce qu'il est coordonné sur ru'usikum ou est-ce qu'il est coordonné sur ujuhakum ou aidiyakum? Ujuhakum ou aidiyakum. Donc, on comprend sur cette khira'a de l'fath, le nasb, c'est quoi? C'est qu'il faut laver les pieds parce que c'est coordonné à tout ce qui a été lavé avant. Or, la khira'a de l'kasr, wa arjulikum, tu passes tes mains mouillées sur les pieds parce que ça a été coordonné au quoi? Au passage sur les têtes, hein? Avec les mains mouillées. Et là, c'est la sunna qui montre quand ceci, quand cela. Or, certaines sectes, comme par exemple Shia, ils ont pris que la qira'a al-kasr. Et ils ont laissé la qira'a al-fath. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن محمد رسول الله
On continue sur ce point de grammaire-là qui est quand même important. Est-ce que vous avez compris? Hein? On continue comme là-dessus. C'est quoi? C'est que... Donc la lecture du verset de Surat Al-Ma'id avec une fatha wa arjulakum sur le lam et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a montré la description des ablutions indique cela, c'est-à-dire le lavage des pieds. Hein? Tandis que la lecture du verset avec la kasra wa arjulikum, c'est quoi? dans Arjulikum, c'est, elle est comprise à la lumière du regroupement des deux lectures. Arjulakum ou Arjulikum. C'est le lavage léger. D'accord? Et quand vous retournez au livre de Fiqh, dans le livre de Cheikh Al-Uthaymin, vous voyez que quoi? C'est quoi la sunna? C'est de laver les pieds, et puis on s'en met des chaussettes ou autres, d'accord, sur les pieds, et bien, et qu'on les a mis en état de pureté, évidemment, de purification, et bien qu'est-ce qu'on peut faire après? C'est quoi? Le passage des mains mouillées sur ce qu'on appelle mas halal khuffain dans la sunna, d'accord? Or, Shia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quoi? La qira'at al-kasr wa arjulikum, et ils ont laissé là, qira'at al-nasb bil-fatha arjulakum. Donc ils ne se lavent pas les pieds, ils font le masah. Et j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. Hein. D'accord? Et le fait justement de se baser uniquement sur la lecture du verset avec la kasra, arjulikum, et le fait de délaisser le lavage des pieds, qui est indiqué dans la lecture avec la fatha arjulakum, et indiqué dans la sunna également, eh bien c'est le suivi de ce qui prête à équivoque le mutashabih. Et le fait de suivre le mutashabih et de laisser le muhkam, ça fait partie des signes de al-bid'a wal-ahwa. Hein? Comme on avait dit, vous vous rappelez dans les premiers cours qu'on avait fait, il a dit anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa akhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fiyattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Donc quoi? C'est dit, ils suivent le mutashabih, ce qui peut prêter à équivoque, le mutashabih, et délaissent ce qui est clair, le muhkam. Il suffit pour connaître l'égarement de ceux qui sont égarés de la vérité, le fait de délaisser le lavage des pieds et se suffire de l'essuyage des pieds sans les avoir lavés. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Ils se sont empêchés. Regardez, qu'est-ce qu'ils sont empêchés? Le khir qu'ils sont empêchés eux-mêmes en faisant ça, en suivant le mutashabih. Ils se sont empêchés d'obtenir la récompense de ce qu'on appelle le tahjil. Hein? Comme le prophète Sarsam dans le hadith l'a dit, ghurran muhajjalin. Qu'est-ce que ça veut dire ghurran muhajjalin? Donc ça, on a dû aller voir dans un autre livre également pour voir la définition. Dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté va être appelée le jour du jugement dernier, ghurran muhajjalin, des traces des ablutions. Et le hadith est rapporté par le Bukhari, vers numéro 136, et Muslim, numéro 580, d'après Abu Huraira. Bah, qu'est-ce que ça veut dire ghurran et qu'est-ce que ça veut dire muhajjalin? Cheikh Abdullah al-Bassam, dans Sharh Umdat al-Ahkam, page 37, nous dit, ghurran, c'est le pluriel d'un mot qui veut dire quoi? Une tache blanche sur le front du cheval. Et c'est ici, c'est-à-dire dans le hadith, que leurs visages seront illuminés le jour du jugement dernier. Par quoi? Par le lavage, par les ablutions. Muhajjalin, qui veut dire, qui vient du tahjil, tahjilun, qui veut dire en fait la blancheur qui se trouve sur les pattes des chevaux. D'accord? Et ce qui est voulu dans ce hadith, c'est la lumière sur leurs membres le jour du jugement dernier. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ici dans cette faïda lorawiya dans la langue? C'est quoi? C'est que, ben, parce qu'ils ne se lavent pas justement les pieds, hein, eh bien, ils n'auront pas ce khirlage comme au Yom Qiyama, hein, d'être appelés le jour du jugement dernier, Ghurran Muhajjalin, les visages et les membres illuminés par les traces des ablutions. Et qu'ils s'exposent donc au châtiment annoncé dans la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, donc c'est un hadith qui rapporte Abu Huraira également, et qui est aussi muttafaq alayh dans le Bukhari au Muslim. Châtiment et perdition pour celui qui ne lave pas complètement ses talons. C'est un hadith qui est très connu, qui explique également dans Amdat al-Ahkam, « Waylun lil'aqabi minan nar ». Le « wayl » en arabe, ça veut dire « al-halak » ou « al-azab ». Châtiment et perdition pour celui qui « lil'aqabi minan nar ». L'aqab, c'est « jam'u aqibin », c'est le talon en fait, l'arrière du pied. Hein? Pourquoi? Parce que c'est, comme Al-Bassam dans Amdat al-Ahkam, c'est une partie qu'en général les gens ont tendance à oublier parce qu'elle est à l'arrière, elle est plus difficile. Hein? Et c'est pour ça qu'on doit faire plus attention, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en disant « Waylo lil aqabi minan nar » Il a utilisé mon nar. Hein? D'accord? Et le hadith, il est rapporté dans le Bukhari 165 et Muslim 242. Je pense qu'on va arrêter là-dessus, inshallah. Donc il nous reste le cinquième et sixième parmi furu de l'wudu. D'accord? Et après on rentre dans quoi? Le wajib l'wudu, inshallah. Et après on continue dans le reste des piliers de la prière. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.